à l'architecture gothique, ce qui nous a permis d'ailleurs de travailler aussi en creux sur l'architecture romane. Et nous avions essentiellement œuvré sur un certain nombre de monuments religieux. Aujourd'hui, on va passer une vitesse, en ce sens qu'on va travailler sur une séquence chronologique un peu plus tardive. On va grosso modo aller de la fin du XVe à la fin du XVIIIe siècle. Et on va s'intéresser cette fois non pas à l'architecture religieuse, mais à l'architecture profane. Et j'ai choisi pour ce faire un certain nombre de monuments qui sont pour certains d'entre eux assez célèbres, pour d'autres moins, mais qui sont l'œuvre parfois d'architectes qui, eux, le sont, et des monuments qui sont surtout emblématiques de ce que je voudrais que nous voyions ensemble. Il y a après tout pour ces périodes 16, 17, 18e siècle, des monuments extraordinaires du type Chambord. Sous les Chambord, il n'y en a qu'un, et quelque part, ce n'est pas un monument vraiment caractéristique d'une période. Chambord, c'est Chambord, point à la ligne. Par contre, il y a toute une série de monuments, parfois encore une fois très célèbres, mais qui sont plus représentatifs d'une évolution, d'une singularité d'une époque. C'est plutôt autour de cela que l'on va travailler aujourd'hui. Alors, je passe très vite sur nos règles habituelles, puisque vous les connaissez, et je voudrais qu'on aborde dès à présent le premier chapitre, qui va avoir pour but de travailler de la manière suivante. Dans ce premier chapitre, j'ai rassemblé toute une série de photographies de lieux, de sites, de monuments, datables encore une fois entre la fin du XVe et la fin du XVIIIe siècle. Vous verrez, il y a 16 vues. Et à partir des 16 vues que je vais vous montrer maintenant, il y aura plusieurs choses à faire. La première, c'est que ces vues fonctionnent par deux. C'est-à-dire que pour chaque monument, j'ai choisi deux vues. Puisqu'il y a 16 vues, c'est-à-dire qu'il y a 8 monuments. Ah ben voilà du monde qui arrive. Entrez. Voilà. Ah ben voilà. Hop. Entrez. Voilà. Madame Kinette, c'est ici. Non. Ah non, c'est là. Voilà. Vas-y. Hop. Mais toi, t'es pas la dernière, vous êtes deux. Alors. C'est bien. Voilà.
Ah, les petites signatures.
On vous fera passer la feuille d'émargement après. Hein. Voilà. Oui, donc ce que je disais, c'est que dans ce premier exercice, il y a 16 photographies, mais concernant 8 monuments, donc il faudra, un peu comme dans un jeu des 7 familles, apparer une photo à une autre pour, j'allais dire, reconstituer le monument. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faudra également restituer l'ordre chronologique. J'ai évidemment mélangé les cartes, si j'ose dire, et l'idée sera bien sûr de remettre les cartes dans le bon ordre, donc de mettre les photos deux à deux, mais aussi de les mettre dans l'ordre chronologique normal. Le dernier point, c'est qu'une fois qu'on aura fait ce travail-là, je vous demanderai, en regardant de près ces monuments, de les caractériser, de voir ce qui fait la singularité, la spécificité, l'originalité des monuments en question, ce qui va nous permettre de dégager, un peu comme la semaine dernière, pour l'architecture gothique, de dégager la silhouette de l'évolution de l'architecture profane entre la fin 15e, début 16e et la fin du 18e. C'est bon ?
Oui.
C'est clair ? Je fais passer la petite feuille à Madame Urbain. Voilà. Vous la redonnerez tout à l'heure à qui de vous ? Bien. C'est bon ? Je vous montre les 16 vues. De toute façon, je vais vous les montrer une première fois, puis une deuxième, et puis on les re-regardera encore. Il y en a 16, hein, c'est pas énorme. Je pense que vous allez pouvoir vous les vous approprier. On y va, vous êtes prêts ?
Oui.
Bien. Encore une fois, je vous les montre une première fois un peu vite, mais vous allez les revoir.
Thank you.
Oui, c'est peut-être pas la pelouse que l'on regarde. Enfin, elle est bien coupée, effectivement.
La mousse.
Oui, oui. Bien. Voilà donc ces 16 vues que je vais vous remontrer une deuxième fois, une seconde fois. Non, une deuxième fois. Encore une fois, l'idée, hein, c'est de voir quelle vue va avec quelle autre, hein, pour faire des duos, si j'ose dire. Et puis de mettre ça dans l'ordre, de voir quel est le monument le plus ancien, quel est le plus récent, et après, entre ces deux extrêmes, comment vous les organiser. Et une fois que ce travail-là aura été fait, on va revoir les monuments en essayant de les caractériser et voir quelle est l'évolution de cette architecture profane à travers les monuments en question. D'accord ? Qu'on essaiera quand même aussi de reconnaître, et dont on essaiera même peut-être quelquefois, quand on le sait, on ne sait pas toujours, hein, de savoir quel est l'architecte. D'accord ? Bien. Allez, on y retourne. Mais cette fois, reculons. Hein. Quel silence. Impressionnant. Bien. Et voilà. Bien. Alors, on va s'y mettre. Hein. L'idée étant, encore une fois, de voir quelle photo déjà va avec quelle autre et chronologiquement, quand est-ce que vous situez ça entre l'extrême fin 15e, début 16e et la fin du 18e. OK ? C'est bon ? Et après, encore une fois, on caractérisera les monuments. Bien. Ça. Cette photo-là, vous la mettez avec quelle autre ?
La dernière.
La dernière. Donc, on aurait deux vues d'un même lieu. Hein. OK. Donc, le 1 irait avec le 16. Hein. Pas tout de suite. Ça, je ne sais pas encore faire, mais vous allez le revoir tout à l'heure. Hein. Vous allez le revoir à la 16e, en 16e rang. Hein. À vue de nez, vous mettez ça chronologiquement. Encore une fois, notre séquence chronologique, hein, c'est 16e. Hein, c'est fin 15, début 16e jusqu'à fin du 18e. Donc vous mettez ça 16e.
Début, non.
16-17.
Début 17e.
Début 17e.
18.
Ouais, je sens une approbation générale dans une phase qui serait fin 16, début 17e. Je me trompe ? Ça vous va ?
Oui.
Est-ce qu'il y a des gens contre ?
Non.
Pas d'abstention ?
Non.
Bien. Oui, j'ai oublié de vous dire une idée du château précédent ?
Non.
Là. Alors là, d'abord, ça va avec quoi ? Avec quelle autre vue ?
Avec l'escalier.
Avec la vue qui montre un escalier. Là,
oui,
hein,
oui.
Okay. Donc ça irait avec la vue qui nous montre un escalier. Hein, okay. Et vous voyez ça quand ?
16e.
Fin 15e ?
Non.
Fin 16e ?
Non.
Fin 15e ?
Non,
on est vers 1480.
Oh, non.
Ah, non.
Non.
Plus.
Plutôt alors, quoi
1600.
Autour de 1600.
Non.
Donc en fait, c'est la même période que le précédent.
Ah non.
Non.
C'est plus
tard. C'est plus
tard. Un peu avant.
Un peu avant. Oh, je sens qu'il y a un dissensus là. Hein. Alors, d'abord, je résume un peu tout. Plutôt fin 15e, plutôt 16e, début ou fin, ou plutôt 17e, début ou fin.
Non, pas fin.
Parce que je résume tout ce que j'ai entendu. Hein. J'ai tout entendu, on va dire. J'ai pas entendu 18e, c'est déjà ça. Hein. Bon. Fin 16e, Ou début 17e. Bien. Donc en fait, c'est un peu la même chose que le précédent. Le précédent, vous avez dit fin 16, début 17.
Non.
Ah ben si, c'est ce que vous avez dit.
Oui, mais c'est plus tardif l'autre.
Hein, plus tardif l'autre. L'autre serait plutôt fin 17e.
Ah non, non, non.
Non. Bah, alors là, je ne sais pas quoi dire. Là, je ne sais plus quoi dire. Parce que l'autre, hein, je vous le rappelle, vous m'aviez validé mon résumé, hein, vous m'aviez dit fin 16, début 17, hein, je ne fais que... Et vous m'aviez dit oui, hein, bon. Donc là, on est quoi? On est... Alors, pour être plus simple, on est avant ou après l'autre?
Un peu avant.
On est un peu avant. Bien. Donc si l'autre, c'est fin 16, début 16e, là, on est milieu 16.
Début 16.
Oui, on va dire comme ça.
On va dire comme ça. Bien. Donc, on va dire que c'est du milieu du XVIe siècle, puisque c'est avant l'autre. Et l'autre est en fin XVIe, début XVIIe. Si ça, c'est avant, ben, on est forcément milieu XVIe. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Hein. Moi, je ne fais que résumer la situation. Hein. Et cette photo-là va avec la photo de l'escalier. Hein. Il y a une photo en hauteur. On voit un escalier. Ça doit être la 13, si ma mémoire est bonne. Hein. Ça vous va, ça? Ok, ah, il faudrait que vous les revoyiez. Vous voulez que je vous les remontre?
Ah oui, parce que là,
je vous les remontre. C'est fin photographié bien, hein, l'histoire de l'art, c'est ça. Hein, faut, hein. Je vous les remontre, hein, et puis on reviendra à ça après. Je vous les remontre.
Oui.
Ça va avec ça? J'ai dit que je voulais remontrer, je voulais remontrer.
Peut-être ça. Ah, ça.
C'est ça, ça vous parle.
Ah, voilà. Il y a deux avec la 13.
Non.
Non.
Ah non. Oh, bah, oui, mais... aujourd'hui, je ne trouve pas beaucoup de majorité.
Ont...
C'est un jour de grève, c'est pour ça aussi.
Et
pardon. Et de printemps, alors forcément.
Est-ce qu'ils ont une unité de date de construction ou si c'est la construction.
Ce que je vous montre, c'est très unitaire. Voilà. Parce que quelquefois, ces châteaux ont été revus, il y a eu une chose ajoutée, etc. Que, ce que je vous montre est cohérent, on va dire.
Voilà, 16,
avec... 16, pour vous, ça va avec le premier. On est d'accord, hein, c'est ce que vous disiez. Hein. Bien. Je vous les remontre.
La couleur de la pierre.
Oui, la couleur de la pierre, ça aide.
Ouais, les diapositives.
13 et 9 pourraient aller ensemble.
Oui. 13 et 9.
Oui, je suis d'accord.
D'accord. Il y a l'escalier avec. Hein.
Oui, des grandes fenêtres.
Non. La tour.
Alors finalement, ça va être quoi ça? Parce que c'était ça la question.
Avec l'escalier, là.
Pardon. Année. Ce serait donc peut-être année. Et donc ça irait avec quelle autre photo? Peu après.
Deux après.
Ça irait avec ça.
Non.
Bon, bah écoutez, vous aurez essayé, hein. Bon, je sens comme une fluctuance sur cette. Hein. Bon, ce qu'on a trouvé quand même, c'est qu'on est plutôt milieu 16e. Là, il y avait une sorte de consensus. Par contre, pour apparaître cela avec une autre photo, je sens moins de certitude.
Oui, c'est sûr.
Ok ? Bien. Allez, on passe à la suivante.
C'est l'escalier, là, c'est
3. Ah, l'escalier, vous avez dit que ça allait avec la photo d'avant.
Non, c'est mieux avec ça.
Ah, il y a deux escaliers, d'accord. Ok. Donc, ça, c'est une des photos avec l'escalier que je vous ai montré.
Oui.
Où on voit là une cour avec un escalier.
Oui.
D'accord, ok. Ok, très bien. Vous situez ça quand ? Par rapport à ce qu'on a vu avant, je vous rappelle qu'on a vu un château que vous avez daté fin 16, début 17, et que le précédent, c'était milieu 16.
Oh, là, on serait là, avant. Avant.
Là, on est avant. Oui. Hein. Donc, on serait plutôt début 16, alors. Hein. Début 16e, alors que ce que l'on a vu avant serait mi-16e, et que le tout premier que nous avons vu serait fin 16, début 17e. Ça vous va que ça hein. Une idée du château. Le précédent nous a proposé Annay, je vous rappelle. Hein. Là, vous avez une idée peut-être du lieu, non ?
Bord de Loire.
Bord de Loire, peut-être. Bien.
Oh, c'est Bourgogne du Nord, mais je ne peux plus retrouver.
C'est propre.
C'est un château bourguignon, ça.
Un château bourguignon.
De la Bourgogne du Nord, mais je ne peux plus retrouver le nom.
Pardon ? La cour des Invalides ? Les Invalides sont pas en Bourgogne du Nord, mais... Bussy-Rabutin, vous disiez, peut-être ?
Non, non.
Ah, Rabutin, non.
Ah non, sûr que non.
Non.
Ah bon ?
Non. Alors, vous situez ça quand, en tout cas ? Par rapport à ce qu'on a vu avant. Rappelez-vous, hein, le château qu'on vient de voir, qu'on a mis le plus anciennement, hein, celui avec l'escalier, début 16e. Ensuite, il y avait, vous savez, le portique, etc. Et vous mettiez ça milieu 16e. Et puis le tout premier château, vous mettiez fin 16e, début 17e. Ça, vous le mettez quand ?
17.
Pardon ?
17.
Du 7. Du 7e. Hein.
Ah non.
Fin 17e, peut-être ?
Non.
Oui, fin
17e. Vers 1680, peut-être ?
Non, oui. Avant.
Avant ? Louis XIV. On va dire Louis XIV. Ah, Louis XIV, 50 ans de règne, hein, il s'est passé des choses. Quoi, hein. Donc on va dire deuxième moitié du XVIIe siècle. Ok ? Ça vous convient, ça ? Ah oui, avec quoi vous l'associez ? Exact, oui. J'oublie tous mes devoirs. Vous l'associez avec quoi ?
Vrai qu'on revoit.
Vrai qu'on revoit.
Je ne veux pas les mettre tous comme ça.
Je ne veux pas les mettre ensemble, là.
Ah, là, c'est un peu plus compliqué pour vous.
Alors.
De toute façon, à la fin, je vous les remontrerai encore. Parce que là, vous les regardez, mine de rien, ça entre. Hein.
Oui, oui.
Et à la fin, vous allez peut-être plus... Hein. Alors, bien, allez, on regarde le suivant.
C'est
la préfecture de Dijon,
ça ?
La préfecture de Dijon ?
Ah oui, ça semble vrai.
Pourquoi pas ? Et on est quand, là, alors ? Plus tard. On était Louis XIV, hein ? Donc là, on est Louis XV.
Oh non, avant.
On est avant ? Alors, on est avant Louis XIV ?
Non, c'est avant Louis XV. Mais avant Louis XV.
Alors, par rapport au précédent, vous le voyez avant ou vous le voyez après ?
Après.
C'est de Louis XIV. Ah, donc ça, c'est de Louis XIV tôt, l'autre est un Louis XIV tard.
Par exemple.
Hein ? Donc ça, c'est un petit peu avant le bâtiment bien propre qu'on a vu tout à l'heure.
Ah non.
Après. Ça, c'est après.
C'est d'après.
Donc d'abord, on aurait le monument bien propre et après, on aurait ça.
Oui.
Donc du Louis XIV un peu cuit, quoi.
Quand ?
Du 17 et demi, de fin du règne de Louis XIV. D'accord ? Bien.
Louis XVI.
Louis XVI. Alors là, on est carrément 18e. Hein. Et même plutôt deuxième moitié. Hein. Ok. Une idée du lieu, peut-être ? Non. Bon, en tout cas, fin 18e, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein ? Bien.
Ah oui.
Alors ça, d'abord, ça irait avec quoi ?
Ce qu'on a vu avant.
La deuxième photo, peut-être.
Hein ?
Là, ou la troisième. Celle où il y a la chapelle sur la gauche.
Hein ?
Voilà. Donc ça, ça irait avec le château, avec la chapelle sur la gauche. Troisième photo, je crois. Hein. Alors, autrement dit, puisque ce château-là, on l'avait placé début 16e, on est début 16e.
Ah oui, c'est Renaissance.
Ok. Début 16e. Hop. Alors là, on est quand, là ? 17e.
Oui.
Oui, moi je trouve aussi la photo.
C'est un 17, c'est presque bien militaire. Bien. Et on est à 17e tôt, tard, on est Louis XIV, on est avant. À 17e tard.
Non. Moyen.
Ça marche avec la cour de tout à l'heure. La cour très propre-prêtre.
Voilà.
D'accord. Ok. Donc on aurait là l'extérieur de la cour. Donc quelque chose qui est plutôt à situer fin 17e. Hein, comme la cour d'ailleurs.
Eh bien oui.
Ok.
C'était la
Non.
Donc ça c'est grec, la photo de l'escalier. Vous savez, il y a une photo avec un escalier en hauteur qu'on va voir en 13 tout à l'heure. Hein.
Il y en a déjà un à gauche.
Oui.
Oui.
Oh, bah. Abondance de biens. Hein. Et ça, vous datez ça de quand? 16e.
En tôt.
16e tôt.
16e tôt.
16e tôt. D'accord. Pas d'idée du lieu. Hospice de Beaune.
Oh non.
Non. Il n'y a pas les toits. Il n'y a pas les tuiles vernissées.
Et puis alors, il n'y a pas les galeries.
Non, oui, non.
Ah, ça fait penser, mais.
Non.
Mais les toits sont pas comme ça.
Et puis il y a des galeries.
Alors.
Peut-être.
Ça va avec. Ah, le. Donc, ce serait une, donc, il y aurait trois vues de ce château-là.
Non, il y a deux.
Puisqu'on en a déjà vu deux. Hein.
C'est pas Sully, c'est
Sully.
Oui, c'est
non.
Non. Non, c'est pas Sully, parce qu'il y a un grand.
Pas Sully.
Derrière.
En tout cas, ça fait discuter. Hein. Vous mettez ça quand, ce château-là?
Milieu
16e. Milieu 16e. Pardon. Qu'est-ce que vous avez dit? Pardon, j'ai pas entendu.
À l'automne.
Pardon. D'accord, ok.
Début d'automne.
Ça, c'est pas faux. Mais si on veut dater en termes de siècle, on dirait quoi? Louis XIII, donc plutôt première moitié 17e.
Oui.
Hein,
oui.
Ça va avec quoi? Le gros truc. On a vu pas mal de gros trucs. Hein.
Après qu'on revoit.
D'accord, on va revoir. Mais là, c'est bien qu'on. C'est bien qu'on peine un peu sur les photos, parce que c'est bien moyen de se les intégrer. Dans notre tête. Hein. Puis on a plus que 6, vous voyez, on est presque à la fin.
Oh, ça, c'est avec la façade de
l'autre. L'intérieur de la façade de tout à l'heure, quelle façade?
La façade
de Dijon.
Dijon.
Donc ce serait l'intérieur de cet hôtel dijonnais dont vous parliez tout à l'heure. On est quand là alors?
On avait dit 17.
17.
18e.
Pardon.
On avait dit
17. 17. Tout à l'heure, on était fin 17, début 18e, je crois. Hein. On était même plutôt début 18e tout à l'heure. Bon, on va dire fin 17, début 18e. Ça vous va, ça? Bien. Ça, on va résumer après. Hein. Et là?
Alors, celle-là, entre la 16 et la 1, il y a des.
Château de Rosé.
Oh, ça pourrait être début 18e.
Début 18e.
À cause des, oui, à cause différentes choses.
Les fenêtres.
Oui, les fenêtres. Les macarons au-dessus des fenêtres.
Macarons au-dessus des fenêtres. Et vous avez une idée du lieu, peut-être, non? Donc, on serait début 18e. Hein. Donc, juste après ce qu'on vient de voir avant, puisqu'on vient de voir avant, c'est fin 17, début 18e. Là, on est juste après.
Oh, il y a de l'espace entre les deux.
Il y a de l'espace entre les deux?
Oh, oui.
Oh, on va mettre nous deux décennies, alors. Hein. Et alors, oui, l'idée du monument, peut-être. Pas oublié, pas obligé. Hein. Non. Bon. Allez, 13. Donc ça, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, ça irait avec, vous savez, la cour, on a vu avec les arcades tout à l'heure. Vous savez, vous parliez d'un escalier, alors quelqu'un disait, mais il y en a déjà un. On a vu qu'il pouvait y en avoir deux, peut-être, hein, après tout. Hein. Donc, ça irait avec la cour qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Une idée d'un monument, peut-être. Pardon. Avec celui qu'on vient de voir.
Parce que dans un moment, on a l'impression que derrière le mur, il y a un escalier. Enfin, il y a un monument qui a un peu plus de sort.
Celui qu'on a vu juste avant.
Non, non.
Impossible.
Peut-être c'est celui-là.
Celui qu'on a vu tout à ça. Ça ressemble un petit peu. Derrière le mur, il y a une espèce de verrue comme ça.
Derrière.
Non, puis les fenêtres sont pas les mêmes.
Certains ont parlé de Blois. Alors on verra. Hein. Certains ont parlé de Blois. J'ai entendu le mot Blois.
Hein,
Blois, peut-être. Donc quel escalier de Blois? Quelle époque?
Oui. Renaissance.
Fin 15e, 16e. Ça marche avec l'autre, lequel? Deux vues avant. Celui qui ressemblait à Rosé. C'est ça? Et on est 18e. Donc plutôt début 18e, puisque l'autre vue était début 18e. Une idée du monument, non? Non.
Celui-là avec un des premiers, avec le 6 peut-être.
Avec un des premiers, le 6 qui ressemblait à quoi?
Qui était vraiment carré, très
un
carré.
Un truc très très carré, hein. Un monument très carré. Vous le datez quand ça?
Il y avait des colonnes intérieures.
Des colonnes intérieures. Et vous le datez de quand celui-là?
Louis XVI encore.
Louis XVI. Donc c'est ce que vous avez dit déjà de la photo, on a voyé un monument bien carré. Hein. D'accord? Bien. Allez, le petit dernier. Qui va avec le 1? Ah, tout à l'heure on était fin 16, début 17e.
Non, c'est début. Non. C'est pas fin 16.
Ah, il a rajeuni entre temps.
Ah oui.
Donc il passe de fin 16, début 17 à.
Milieu
17.
Il est Louis XIII.
Plus tard?
Ah non.
Louis XIII.
Louis XIII. Un château de briques au point de pierre. Voilà. C'était Louis, c'est sous Louis XIII. Bien. On les regarde une dernière fois, reculons.
Oui.
Ça vous irait, ça? On essaie. Ou alors, je vais toutes les repasser, puis on va les revoir depuis la numéro 1, pour pas trop vous embrouiller. Et puis on regardera, on redira ce qu'on a dit. Hein. Voilà. Alors, ça va être la dernière.
Ah oui.
C'est un monument qui est passé de la fin 16, début 17e, au milieu ou à la deuxième moitié du 17e.
Ah non, pas la deuxième moitié du 17e, non.
Ah non. Milieu 17. Là, on est un monument qui est un peu seul. Hein. Et que vous mettiez, je crois, fin 17 plutôt.
Oh non, c'est pas possible.
Non,
c'est pas possible. Au début, on a dit 16.
Là, on a dit beaucoup de choses sur celui-là.
On a dit qu'il était avant le premier.
Pardon ?
On a dit qu'il était avant le premier.
On a dit qu'il était avant le premier, mais le premier a changé un petit peu de date.
Avant la photo 1.
Alors finalement, il est avant la photo 1. Il est avant celui-là. D'accord ? Alors finalement, il est quand celui-là ? 16. 16e. 16e, c'est bon ? 16e. Donc, ça veut dire qu'il a l'autre a rajeuni, celui-là a vieilli, hein.
Oui, ah oui.
C'est normal. D'accord, hein. D'accord. On a le droit, hein. C'est pour ça qu'on les regarde, c'est pour se faire l'œil, hein. Donc on est d'accord, il y a d'abord celui-là, on va dire milieu 16e, milieu 17e, c'est ce que vous disiez, hein. Et celui-là qui est plutôt fin 16e.
Oui.
Ça vous va, ça?
Oui, ça vous va. Hein.
Ça... Avant, donc on serait plutôt première moitié 16e dans ce cas, puisque l'autre est fin 16e. Hein. Okay. Ça, là c'était Louis XIV tout à l'heure. Hein.
Oui, on avait dit ça. Oui.
Ça vous va ça? Les marbres, etc. Hein. Donc on est plutôt deuxième moitié 17e. Ok. Ça. 18e. Début 18.
Ah oui.
Juste un petit peu après celui qu'on vient de voir. Très bien. Celui-là.
Avec celui de la fin qui a des grandes colonnes.
Ça va avec celui de la fin avec les grandes colonnes. Donc là, on est.
C'est Louis XVI.
Gros entablement qui fait tout le tour. Donc on est quand là ?
Louis XVI.
On est Louis XVI, donc on est fin 18e. Ok ? Ça.
Début
16e. Ça va avec quoi ça alors ?
Le 3.
Avec le 3 qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Ok, donc on est plutôt début 16e, hein, c'est ça que vous disiez. C'est bon ? Bien. Celui-là, tout à l'heure, c'était le pourtour de la cour toute blanche, Louis XIV. Là, hein. Ça vous va ? C'est bon ? Très bien.
Ah bon ?
Là, on est quand ?
Début 16e.
Début 16e. Ça marche avec quelle photo ? Tout à l'heure, ça marchait avec l'escalier qu'on verra plus tard en 13.
Avec la 13.
Avec la 13, ça vous va ? Vous savez l'escalier, là, hein ? D'accord ? Vous étiez au Loire, par exemple. Hein ? D'accord ? Ça vous va, ça ? C'est bon ? Bien. Ça. On est quand, là ?
On voit les colonnes au milieu.
On voit les colonnes au milieu.
De la 2, là. Ça va avec
quelque chose. Quand vous dites on voit les colonnes au milieu, vous pensez à quoi, précisément ?
La 2.
À la 2. Mais les colonnes au milieu, c'est où ?
Dans la cour, alors.
Dans la cour. Là, on voit les colonnes de la photo numéro 2. Donc ce serait le même château, a priori. Ouais. Hein ? Un château qui date de quand ?
Fin 16e.
Fin 16e, alors ?
C'est ce qu'on avait dit.
Parce que tout à l'heure, on était au 17e.
Ah non, non, c'est pas possible.
Tout à l'heure, on a dit fin
16e. Fin 16e ?
Oui.
Donc on est fin 16e. Hein ? Ben, on avait dit pas mal de choses, hein, tout à l'heure. Mais fin 16e, c'est très bien. De toute façon, si c'est de la même époque que les colonnes qu'on voit là, qu'on a vues sur la photo 2, et que la photo 2, c'est fin 16e, ben, là, c'est fin 16e aussi. On est d'accord. Ça vous va, ça ? Bien. Ça, c'est l'intérieur de Dijon.
Hein ? C'est peut-être pas Dijon, d'ailleurs.
Ça.
Début
18e, on avait dit tout à l'heure. Hein. Toujours d'accord.
Oui.
Hein. Et ça, bah, ça, ça va avec la cour qu'on a déjà vue tout à l'heure. Hein. Non, vous savez, la cour avec le praticable, au semble. Hein. Ok, très bien. Donc on est début 16e. Hein. Bien. Ça, voilà, ça va avec celui qu'on vient de voir, il y a deux photos.
Oui.
Hein, c'est-à-dire début 18e. Si.
Oui, oui, oui.
Ça vous va, ça ?
Oui.
Très bien. Ça va.
Fin 18e.
Ça, ça va avec le grand tout carré qu'on a vu au départ. Quelle époque ? Louis XVI. Autant on emporte le vent, effectivement. Ça, facile, c'est pour se reposer à la fin. Hein. C'est comme le premier. Donc, c'est milieu 17. Bien. Alors, on corrige ?
Hein,
ça bien. Alors, le plus ancien, donc fin 15, début 16, c'est ça. Et là, c'était assez juste, hein, c'est ce que vous aviez dit. Hein. Alors, c'est où ? C'est moi qui pose les questions ici. Amboise ? Amboise ? Blois ? Bourges ? Quel lieu à Bourges ?
Ah, Jacques-Cœur ! Palais Jacques-Cœur.
C'est le palais Jacques-Cœur à Bourges. Bravo. Absolument. C'est Bourges, c'est le palais Jacques-Cœur. Et d'ailleurs, je vous ai montré une autre photo du palais Jacques-Cœur.
Oui.
Laquelle ? Celle avec le grand escalier. Vous rappelez le grand escalier, vous disiez moi.
Oui, oui.
Bah, c'est peut-être plutôt le palais Jacques-Cœur.
Il y en a encore un autre.
Sauf qu'il y en a un autre d'escalier. Avec la jolie petite cour. Parce que vous rappelez, on a vu une petite cour tout à l'heure avec des arcades. Ce serait peut-être ce qui va avec cette photo-là. Non seulement ce serait, mais c'est. C'est-à-dire que voilà, notre vue. Ces deux éléments, c'est des vues du palais Jacques-Cœur à Bourges. Hein ? D'accord ? Donc vous avez fait effectivement là, hein, fin 15e, vous disiez fin 15e, début 16e. Bon, c'est bon, hein. On est effectivement dans la deuxième moitié du 15e, hein, parce que c'est juste avant la station Jacques-Cœur que se termine la construction du palais en 1453. Qu'est-ce qui caractérise ce palais Jacques-Cœur à Bourges et plus généralement cette architecture-là ?
grandes fenêtres.
Oui.
Avec grandes fenêtres.
Oui, bien.
Bah, les grandes fenêtres, on en a vu dans la bâtisse Louis XVI de tout à l'heure,
ah, hein, oui,
qui n'est pas trop, qui n'est pas trop.
C'est des fenêtres à meneaux.
Voilà.
Pardon.
C'est des fenêtres à meneaux.
Alors un côté gothique. Effectivement, hein, y a un côté très très gothique. Hein, voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de gothique?
Les fenêtres à
meneaux, effectivement. Oui. Ouais. Qui continue, qui perdure, hein, il y en a plein. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a encore de très gothique?
Les dentelures, là.
Les dentelures, qu'est-ce que vous appelez les dentelures?
Les flèches, les...
Ah, ce genre de choses. Comment est-ce que ça s'appelle, ça, ce genre de choses? Des choses qui montent, comme ça.
Les flèches.
Ah, des flèches. Flèches, ce serait vraiment sur... ce serait un toit, en fait. Hein.
Bah, c'est un petit pinacle.
Pas des flammes.
Un petit pinacle.
Des pinacles. Hein, ce sont des pinacles, effectivement. Hein. Des pinacles. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore de très gothique là-dedans? Les arcades sur le donjon.
Oui, aussi.
Ça? Ça? Oui, ça s'appelle comment, ça? Ces choses qu'il y a à l'intérieur des fenêtres. Ça, c'est un mot, c'est un petit peu comme pinacle, un mot très important pour définir l'architecture gothique. Comment est-ce qu'on appelle ce genre d'éléments qui est à l'intérieur des... Dans les églises, les cathédrales, il y en a plein. On n'a pas dit le mot la dernière fois. Eh bien, disons-le aujourd'hui. Oui? Des
rosaces.
Non.
Non.
Non, je crois que j'ai entendu le mot.
C'est ça, les meneaux.
Oui, ça, c'est un meneau.
Les meneaux, c'est des croisillons.
Voilà, c'est précisément ça, c'est ce qu'on appelle un meneau. Ça, c'est ce qu'on appelle des croisillons. Hein, voilà. Mais ça, c'est un autre nom. Hein. Ce genre de découpure, dirons-nous.
Bah, archivolte, si on veut, mais pas vraiment.
Mais c'est pas les fenêtres trilobées, ça?
Ah, bah, c'est trilobé.
C'est trilobé, oui.
Mais il y a un autre nom, ou quadrilobé, c'est trilobé là, quadrilobé là, ça s'appelle des remplages.
Ah,
les remplages, ce sont, si vous voulez, ces éléments sculptés qui sont à l'intérieur de ces fenêtres ogivales. Hein. Évidemment, ce type-là, ces remplages, ça c'est tout à fait gothique. Hein. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très très tôt, hein. On n'a plus du tout ça après.
Et la pente du toit.
La pente du toit, que vous qualifieriez de comment? Très vertigineuse, hein, une pente très accusée, absolument. Alors, vous avez bien dit, au niveau des détails, un certain nombre d'éléments encore très gothiques, mais maintenant, si on prend l'architecture en général, là, dans son ensemble, aussi bien d'après cette photo que la suivante, qu'est-ce que vous diriez au niveau des volumes de cet hôtel Jacques Cœur, qui peut-être définissent ce genre de construction profane à la fin du XVe siècle?
On n'a pas vraiment de symétrie.
Pas de symétrie, vraiment.
On a des plans en fonction des besoins.
Des plans en fonction des besoins, c'est, et tout à fait. Effectivement, hein, on a là quelque chose d'un peu chaotique, si j'ose cette expression, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une façade. Hein. On sent en effet que les besoins font qu'on met là un escalier ou là une fenêtre. Hein.
Mais il y a déjà les arcades surbaissées au fond et puis une arcade gothique à droite.
Oui, alors là, il y a effectivement une arcade très, très gothique.
Oui, et l'autre, les autres surbaissées.
Avec notamment, vous avez vu tous ces petits fleurons, oui, là, hein, hein. Et là, c'est chou frisé sous, oui, le socle. Hein. Tout ça, c'est très, très gothique. Alors qu'effectivement, là, on a des arcades qui sont des arcades surbaissées. C'est-à-dire que ce n'est pas des arcades brisées comme celle-ci. Hein. C'est des arcades surbaissées. On appelle ça en anse de panier. Hein. Et ça, effectivement, c'est...
Un peu plus après.
Voilà, ça, c'est quelque chose qui fait penser qu'on est vraiment quand même à la fin du gothique. Hein. Ce genre de choses n'est pas pleinement gothique, si j'ose dire. Ça existe. Mais c'est plutôt quelque chose qui est très caractéristique de la fin du gothique. Donc on a côte à côte des éléments très gothiques, hein, et puis des éléments qui marquent plutôt à la fin du gothique.
Et le décor sous les fenêtres, est-ce qu'il ne fait pas penser aux armatures de bois, enfin...
Un peu, oui. Sauf que, alors, ça se voit mal, mais il y a là des petits décors trilobés très gothiques à l'intérieur. Ah. Hein. En tout cas, au niveau des volumes, hein, je crois qu'effectivement, hein, ce qu'on peut retenir, on le voit bien sur cette photo-là comme sur la précédente, c'est que l'idée n'est pas une sorte de symétrie générale. Hein. Il y a des symétries, si on prend ça, c'est symétrique. Si on voit... Mais la vue totale, elle n'est pas du tout symétrique. Hein. C'est une espèce d'organisation un peu très pittoresquement chaotique, on va dire. Je mets des guillemets, hein, chaotique n'étant pas péjoratif. Hein. Et en effet, on sent que le but, c'est de réaliser des volumes en fonction de ce à quoi sert l'architecture. Mm-hmm. On pourrait dire ça comme ça. Hein. Est-ce que vous verriez d'autres choses pour caractériser ce type d'architecture?
Une espèce de châssis. Là.
Ça? Ouais. Vous diriez quoi? Oui. Oui. Ce n'était pas tout à fait le cas, mais...
Mais là, on n'utilise pas des plombs, déjà.
Des ?
Du plomb.
Ah, si. Oui, mais on utilise volontiers du plomb en toiture. Hein. Oui, et d'ailleurs, ça. Depuis des époques bien plus anciennes. Oui.
Puis alors, il y a encore deux gargouilles.
Oui, à droite, là. Bon, bah écoutez, voilà qui nous permet déjà d'avoir une idée un peu générale hein, concernant ce type d'architecture. Le lieu suivant, c'était celui-là. Toujours pas d'idée du lieu ? Pardon, un château de la Loire.
Non, lequel ?
En tout cas, un château dans l'ouest de la France. Hein. Château de la Loire, c'est une notion un peu extensible. Hein. C'est le château de Meillan. Alors là, vous aviez tout à fait raison, vous l'aviez situé juste après l'hôtel Jacques-Cœur, vous l'aviez situé fin 15, début 16, vous aviez raison, hein. Voilà. Et d'ailleurs, la photo de ce fameux escalier que vous attribuiez à Blois, c'est en fait l'escalier du château de Meillan. D'accord ? Donc ça, c'est l'escalier du château d'avant. D'ailleurs, vous le voyez là.
Ah oui.
C'est lui. Voilà. Alors là aussi, qu'est-ce que vous auriez pour caractériser cette architecture, bon, qui est assez proche de la précédente ? Il y a peut-être quand même un ou deux éléments un petit peu différents, à mon sens.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tours, en fait.
Beaucoup de tours. Oui. C'est-à-dire qu'il y en avait pas mal dans Jacques Cœur, vous vous rappelez ? Puisque sur une photo, on voyait deux tours d'escalier, sur une autre, au moins une autre. Ça faisait déjà trois tourelles d'escalier. Et encore ne voyait-on pas des vues de toute la cour d'hôtel Jacques Cœur. Mais c'est vrai, beaucoup de tours, vous avez raison, c'est important de le dire. Beaucoup de tours, on ne l'a pas forcément dit pour l'hôtel Jacques Cœur. Beaucoup de tours. Ces tours, c'est des tours pour quoi ?
Pour escaliers. Des escaliers.
Des escaliers.
Mais alors, hein. Les escaliers sont donc externes, alors qu'après, on les interne.
Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tours, vous venez de le remarquer, des tours qui contiennent des escaliers. Il y a beaucoup d'escaliers, les escaliers sont externes, ils sont hors œuvre, si vous voulez.
Ouais.
Hein. On va voir que ça, bientôt, ça n'existera plus. Hein, et qu'effectivement, les escaliers seront à l'intérieur du bâtiment. Hein. Là, les escaliers se voient. C'est même souvent quelque chose qui vous pose. Hein, quand vous êtes quelqu'un d'important, il faut que vous ayez un escalier visible. Hein. Au XVIe siècle, il ne s'agit pas d'avoir un escalier à l'intérieur. Hein. Il faut au contraire vous le montriez, votre escalier. C'est ça qui montre que vous êtes quelqu'un d'important et que vous pouvez vous payer un escalier. Hein. Donc, il s'agit de le montrer, l'escalier. Hein. Donc, effectivement, beaucoup de tours, c'est important. Elles sont là qui pavoisent le lieu. Hein. Et c'était vrai aussi pour l'hôtel Jacques Cœur, où il y a plein d'escaliers. Hein. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ?
On dirait qu'il y a une petite église à gauche.
Oui, il y a une petite chapelle. Il y a une petite chapelle à gauche, absolument.
Il y a une tour
d'église qui fait
un peu ancienne, ça fait un peu le fortifié.
Une photo, oui, cette tour-là est une tour, effectivement, qui a un petit côté vraiment gothique, de chez gothique, hein, et presque un peu, même archaïsante. Hein, c'est vrai, tout à fait. Oui, vous disiez, pardon ?
Il y a beaucoup de cheminées.
Beaucoup de cheminées également, c'est vrai.
Et toutes les tours sont surmontées.
Des pinacles, souvent sur les portes, les fenêtres, hein, voilà, hein. Sur les toits aussi. Alors, on appellerait ça plutôt des épiphétages en forme de fleurons. Hein. Ouais. Si je vous montre la tour, peut-être.
Un dôme arrondi, là.
Oui.
Oui, c'est comme...
Ouais, ça vous, je sais pas, ça vous dit quoi, ça ? Plus tardif. Ouais. Oui, et ça vous... Qu'est-ce qui vous... Ce genre de dôme arrondi vous paraît plus tardif, plus début 16e que fin 15e. Quoi. C'est ça que vous...
C'est très décoré.
Ouais.
C'est chargé.
Oui, alors effectivement, on voit cette architecture extrêmement couverte, hein, très décorée, mais il fallait que cet escalier, on le voit, hein, c'est un des éléments importants, c'est la tour du Lion, il faut vraiment qu'on le voit, c'est un escalier d'apparat, si vous voulez. Hein. Donc on retient effectivement cet élément-là, cette sorte d'élément, ce dôme là-dessus de l'escalier, qui en effet ne fait pas du tout penser à l'architecture gothique, absolument gothique. Hein. C'est quoi ? Ça vous suggère quoi ?
L'Italie.
Peut-être l'Italie, effectivement. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui serait comme un emprunt d'un autre type de vocabulaire architectural sur une architecture qui reste par ailleurs assez gothique, comme vous l'avez noté. Hein. Voilà. Mais autrement dit, cet élément, cet emprunt italianisant, il tirerait le château vers quoi ?
Vers la Renaissance.
Hein. On a là, j'allais dire, une touche de Renaissance dans un château qui, effectivement, est encore très, très gothique, même si on est au début du XVIe siècle. Très bien.
C'est un belvédère, d'ailleurs, à ce moment-là.
C'est une sorte de belvédère.
Puisqu'on peut se promener là-haut.
Ouais.
Troisième château.
C'est
pas Ancy-de-France. Eh bien oui, c'est le château d'Ancy-de-France. D'ailleurs, quelqu'un disait tout à l'heure, on doit être dans le nord de la Bourgogne, et eh bien c'est le château d'Ancy-de-France. Donc c'est pas du tout une demeure militaire. Non. Même si effectivement, il y a un petit côté comme ça. Et cette remarque était intéressante, parce qu'elle va nous montrer un peu, finalement, quelle est la caractéristique. Ça allait avec quoi, finalement? Ben, ça allait avec ça. Voilà. Voilà. D'accord, ça c'est l'intérieur de... Bon. Alors, vous datiez ça, à un moment vous l'avez daté du règne de Louis XIV, vous vous rappelez, hein, et même un peu règne de Louis XIV bien cuit, comme je le disais tout à l'heure. En fait, on est un siècle avant, c'est-à-dire qu'on est dans la première moitié du XVIe siècle, et vous savez que le château d'Ancy-de-France est très vraisemblablement l'œuvre d'un architecte italien qui s'appelle Sebastiano Serlio. D'accord ? Serlio serait, on est maintenant à peu près certain, l'auteur du château d'Ancy-de-France. Qu'est-ce que ça vous... Alors, comment caractériseriez-vous cette architecture-là ?
Alors, on prend la symétrie.
Alors là, symétrie, sobriété. Par rapport à ce qu'on vient de voir, alors qu'on est... je vous rappelle, les travaux commencent en 38. On est 28 ans après le précédent. C'est pas beaucoup,
Très dépouillé.
Très dépouillé, hein.
Il n'y a rien, il n'y a pas de...
Non. Donc, vraiment dépouillé, sobriété, oui.
Il n'y a plus rien de gothique.
Proportion, il n'y a plus rien... Alors là, il n'y a plus rien de gothique. Hein.
Non.
Qu'est-ce que vous diriez d'autre encore ?
Tout ce qui était rond est carré.
Tout ce qui était rond est carré. Donc, on est dans une sorte de géométrie très quadrangulaire. OK ?
Le toit beaucoup moins...
C'est pour ça que...
Très classique, très classique. On pourrait dire que c'est, on a beau être à la Renaissance, il y a déjà un côté très classique. Je vous montre la cour à nouveau. Qu'est-ce que ça vous inspire encore, ça ?
En symétrie.
Symétrie, grande symétrie. Hein.
Oui, puis des niches, des sobriétés.
Des niches, des tas de niches. Pourquoi ?
Pour mettre des statues.
Et ça vous évoque quoi ?
L'Italie.
Et quelle Italie ?
Florence.
Quoi d'autre peut-être encore ? Pardon ?
Au Colisée, il y a des statues ?
Pas trop. Vous pensez aux arcades ? Non, c'était libre. Mais cela dit, votre remarque par rapport au Colisée est intéressante.
Plutôt des bustes.
Alors, c'était des statues complètes. Il y avait des statues en pied, si vous voulez. En tout cas, c'était fait pour en recevoir. Non, mais votre remarque concernant le Colisée est intéressante. Pourquoi, par rapport à ça ? Concernant le Colisée, ou bien...
Parce que les arcs...
Oui, mais encore...
Architecture classique.
Oui, alors une architecture classique, mais l'architecture classique, elle vient de quoi ?
L'antiquité.
Elle est inspirée de l'Antiquité. Ce que vous avez là, c'est une architecture, et on ne sera pas étonné que ce soit un Italien qui l'apporte, une architecture qui vient de l'Antiquité. Effectivement, ces niches rappellent tout à fait ce qu'on trouve dans les termes de l'Antiquité, par exemple. Rappelez-vous les termes de Caracalla qu'on a vu l'autre jour. Ces éléments de marbre ou d'ardoise qui sont par exemple plaqués là sur les murs rappellent également ce que l'on trouve dans l'architecture antique. Donc on est là dans une architecture qui se réfère à la Renaissance, à l'architecture antique. Qu'est-ce que ça vous dit, ce Serlio qui vient en Silfran faire ce château pour les Clermont-Tonnerre ?
Parce qu'il y a eu un certain... C'est l'école de Fontainebleau qui...
Voilà.
Elle a débordé un peu au sud.
Voilà, donc effectivement, c'est un exemple, il y en a d'autres, de ces artistes italiens, on parle souvent des peintres, Rosso, etc., Primatis, mais il y a également des architectes, qui viennent d'Italie en France et qui introduisent ce vocabulaire italien de la Renaissance en France. Voilà. Je crois que vous l'avez effectivement bien caractérisé. Château suivant. Alors ça. Qu'est-ce que c'est comme ça ? Je l'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure. Quelqu'un l'a dit. Sully ? Non.
C'est pas
Sully. Bazoche non plus.
Quelle région ?
Proche de Paris. Annay non plus. Chantilly, non. Chantilly, oh, non. Non plus. Oh, non. Mais vous brûlez, si j'ose dire, pour des raisons de propriétaire. Écouen, c'est le château d'Écouen. Il y a un château qui a appartenu au Montmorency comme Chantilly. C'est le château d'Écouen, qui, vous le savez aujourd'hui, est le siège du Musée national de la Renaissance. C'est le château d'Écouen. Donc on est là, vous l'aviez bien dit finalement tout à l'heure. Hein. En fait, vous aviez à peu près tout vu, hein, au niveau, peut-être pas la première fois, hein. Mais en retravaillant sur les photos, au départ, c'était un peu fluctuant, vous vous rappelez, hein. Et au fur et à mesure qu'on les a vus et revus, vous les aviez mis en bon ordre. Hein. Alors, quelquefois des apparements un petit peu fantaisistes. Mais en gros, hein, vous aviez tout vu. Hein. Et ça, c'est effectivement, en gros, milieu 16e, hein, le château d'Écouen. Hein. Voilà. Et donc, effectivement, à Écouen, et vous aviez cet indice que vous aviez trouvé, hein, des colonnes qui forment une sorte de portique, et que vous voyez là. Ça, c'est ce que vous voyez dans la cour à gauche. D'accord ? Hein ?
Et voilà. Il y a encore des fenêtres à meneaux.
Encore des fenêtres à meneaux. Donc on voit que la fenêtre à meneaux a la vie dure. Hein.
Oui, oui, oui.
Mais en fait, jusqu'au XVIIe siècle, il y en a. Hein. Au XVIIe siècle, vous avez encore souvent des fenêtres à meneaux. Hein.
Voilà. Mais il y avait un côté pratique aussi.
Il y avait un côté très pratique. Hein. Vous ouvrez une fenêtre sans avoir tout à ouvrir. Qu'est-ce que vous diriez là aussi pour caractériser tout ça ? Pardon ?
La partie des colonnes, les colonnes, statues,
symétrie toujours, oui, oui. Colonnes.
Corinthiennes.
Oui, statues. D'ailleurs, les colonnes et les statues, vous auriez à dire quoi ? Surtout les colonnes.
Un peu corinthiennes.
Elles sont corinthiennes, oui. Est-ce qu'elles sont engagées ? Elles ne sont pas engagées. Ah, quel est leur rôle finalement ? Décoratif. Oui, en fait, oui, décoratif, hein, parce que est-ce qu'elles ont un rôle autre ?
Non.
Non. Vous les enlevez, le château tient. Hein. Elles servent vraiment pas du tout à tenir. Autrement dit, à quoi est-ce qu'elles servent ?
L'apparat.
À l'apparat. Oui. Et peut-être encore autre chose par rapport au bâtiment lui-même.
À marquer la porte.
À marquer la porte. Hein. À marquer l'entrée. Hein. C'est-à-dire que de plus en plus, selon le but, c'est quoi ? Pensez à l'hôtel Jacques Cœur, où il y avait 10 escaliers dans la cour, des façades absolument dans tous les sens. Pardon ? Voilà, en structure. On pourrait dire quoi encore ? Voilà, c'est symétrique, c'est structuré.
Oui, mais il y a deux portes.
Ah, il y a deux portes, oui. Oui, ça m'a toujours chiffonné. Ça m'énerve, ça m'a toujours énervé, ça. Quoi ? Cette espèce de deux bouts de porte, là, moi, j'en aurais mis qu'une, hein, je comprends pas.
Oui.
Enfin, moi, j'ai fait une réclamation. Mais, toujours trouvé ça raté, les deux petites portes, je comprends pas ça. Mais bon, bref, c'est comme ça. Ah, on est quand même au début du 16e, on voit qu'il y a encore des petites choses. Hein.
L'entrée et la sortie.
Donc, effectivement, on a là un portique avec des colonnes qui n'a aucun intérêt par rapport à la construction du château. Vous les enlevez, tout tient. Mais c'est là simplement pour, sur cette façade qui autrement serait toute pareille, hein, essayer de montrer que l'entrée, elle est là. Hein. C'est là, tout de suite, l'œil voit que l'entrée est là, au milieu, symétrie, hein, au milieu de cette aile.
Il y a même des fenêtres
au-dessus de chaque. Oui, absolument.
Ouais, et pourquoi surchargeait-on le décor au-dessus des fenêtres hautes, des fenêtres du toit.
Vous pensez à ça ?
Oui.
C'est souvent l'occasion de mettre un certain nombre d'emblèmes.
Ah.
Les emblèmes de la famille, par exemple, là, des Montmorency.
Hein. C'est
une occasion d'exalter, entre guillemets, la famille qui est...
Oui, parce que ça n'a aucune nécessité.
Pas de nécessité particulière, non, non, non. Tiens, par parenthèse, ça n'a rien à voir avec l'architecture, mais vous reconnaissez ces sculptures-là ?
C'est des antiques.
Ce ne sont pas des antiques. Bon, c'est loin, hein, mais... Mais quand même.
Ah, mais il y a des sculpteurs à la Renaissance, quand même, en France.
Ah oui, oui, oui. Là, c'est dû à un sculpteur à la Renaissance. Et quel sculpteur ? Ce sont des sculptures illustrissimes, hein. Sauf que là, ce n'est pas les originaux, ce sont des copies. Pardon ?
Bernin.
Pas Bernin. Un petit peu plus tôt.
Français ?
Italien.
Ah.
Michel-Ange.
Oh.
Ce que vous avez là, ce sont les esclaves de Michel-Ange. Les deux esclaves qui sont au Louvre. Hein, voilà. Vous reconnaissez peut-être celui-ci, hein, celui qui est comme ça. Là. Enfin, je vais faire Michel-Ange, hein, mais voilà. Hein. Donc, ça, sont les Scalvi, parce que les Scalvi et Scélanges ont appartenu à la famille des Montmorency. Ils ont été là. Ensuite, pour différentes raisons, ils ont appartenu à Richelieu. Donc, ils ont été au château des Richelieu. Ils ont bougé les esclaves, hein, Michel-Ange. Maintenant, ils sont au Louvre. Hein. Mais au XVIe siècle, ils étaient là à Écouen, de chaque côté de cette porte-là. D'accord ? Bon, je crois qu'on a bien vu, n'est-ce pas, les grandes lignes de cette architecture-là. Alors, après, alors, c'était ça.
C'est Dijon.
En fait, là, on n'est pas fin 18e, fin 17e. Hein, on est plutôt assez tôt au 17e. Hein. Et vous aviez une idée de... Vous disiez Dijon. Hein. Pardon ?
La préfecture.
La préfecture de Dijon.
C'est juste.
C'est l'hôtel de Sully à Paris. Cela dit, vraiment, on peut se tromper. Hein. Pourquoi est-ce qu'on peut se tromper, d'ailleurs ?
Parce qu'il y a la même symétrie, la porte centrale.
Ben voilà. 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 Parce que apparaît à ce moment-là une sorte de typologie de cette architecture profane et, on va dire, sinon palatiale, c'est pas un palais, mais enfin, les hôtels particuliers répondent à une sorte de cahier des charges qui est un peu toujours équivalent. Ah oui,
hein. C'est un hôtel de ville et plus, dans une ville et plus un château.
Oui, absolument.
Donc avec une cour pour les chevaux, enfin, ouais. Les voitures. Les...
D'ailleurs, cette vue-là, elle va avec une autre vue que vous aviez identifiée tout à l'heure. Hein.
Oui, la cour.
Celle-là. Donc ça, c'est la cour. Et d'ailleurs, cette vue vous dit quoi, par ailleurs ? J'ai choisi exprès pour ça.
Il y a des vignons.
Pardon ? Oui, ce sont deux sphinges. Hein. Mais justement, regardez du côté des deux sphinges qu'il y a dans le fond.
Il y a des frontons.
Oui.
Il y a des statues successives.
Il y a des cours successives. C'est-à-dire que derrière, regardez là, derrière, il y a encore une cour. Enfin, une cour. Pas un jardin. Hein. C'est-à-dire que là, on va avoir... dans la première moitié du XVIIe siècle en France, une sorte de mise en place d'une typologie de ce que c'est qu'un hôtel particulier. Hein. C'est un hôtel entre cour et jardin, hein, avec une façade sur rue, avec un mur, et puis derrière donc cette cour, avec autrement dit des bâtiments en U, hein, et derrière le jardin. Hein. On va voir là, alors après ça va varier sur un thème, souvent on les confond tous, parce qu'ils sont toujours un peu pareils. Je comprends que vous ayez vu là un hôtel dijonnais, parce qu'à Dijon il y en a plusieurs du même type, plus ou moins. C'est donc normal. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez encore par rapport à ce type d'architecture ?
Très symétrique.
Très symétrique.
Les statues sont très différentes de...
Ben, d'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des statues.
C'est pris dans la...
Voilà, ce sont des reliefs. Hein, parce que les figures que vous avez là ne sont pas des statues, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de sculpté derrière. Hein. Ce sont des reliefs, hein. Plutôt des bas-reliefs d'ailleurs. Ce n'est pas très, très, très sculpté. Là, par contre, ça m'a l'air d'être une statue. Hein. Mais là, ce sont des reliefs, c'est sûr. Donc, comme je ne sais pas. Non, peut-être pas, c'est peut-être aussi un relief. Hein. Comme à droite d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, ok. Donc, régularité, symétrie, effectivement. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour qualifier cette architecture ?
Beaucoup de frontons.
Beaucoup de frontons. Des, références ?
Architecture
antique, tout à fait. Ouais. Ouais.
Grandes fenêtres avec des petits carreaux.
Grandes fenêtres à petits carreaux. Avec des meneaux, mais qui cette fois sont des meneaux en bois.
Oui.
Hein. Qui ont remplacé les meneaux en pierre.
C'est l'huisserie qui est comme ça.
C'est l'huisserie qui est comme ça. C'est bon ?
Oui.
Voilà. Au suivant, c'est messieurs. Celui-ci. Donc là, bah, vous aviez bien dit finalement, hein, c'est, vous parliez de l'architecture Louis XIII, briques et pierres. Oui, absolument, c'est ça. Hein. Une idée du château ?
Oh,
c'est le château de Balleroy. Hein. Un château qui est dû à François Mansart. Hein. Voilà, alors là aussi, vous le caractériseriez comment ? Brique et pierre, donc. Hein.
Assez symétrique.
Très symétrique. Très classique. D'ailleurs, justement, cette remarque très classique, elle est d'autant mieux venue que quoi ? Alors attention, c'est pas le même. Il y a plusieurs Mansart.
Hein.
Il y a François Mansart et Jules Ardouin Mansart. Hein. Il y a deux Mansart. Ah, c'est compliqué, hein, parce que vous savez, alors l'un est le grand, l'oncle de l'autre. Hein. Oui. C'est-à-dire, Jules Arnaud Mansart est le petit-neveu de François Mansart. Ça ne nous simplifie pas la vie, mais bon. Voilà, hein. Donc, pardon, c'est en Normandie. Et voilà. Et donc, effectivement, vous avez dit classique, c'est très important ça, parce qu'effectivement, ce château est peut-être un des exemples les plus caractéristiques, hein, de l'architecture classique.
Mais les toitures sont indépendantes. Il y a trois morceaux de toiture.
Absolument.
Trois et même cinq.
Absolument. Chaque corps de bâtiment a son toit. Hein. Donc on est là devant une espèce de petit bijou très évident de ce que c'est que l'architecture classique. Hein. Symétrie, enfin plein de choses que vous avez déjà dit sur les précédents, mais qui justement contribuent à en arriver là, si vous voulez. François Mansart, c'est un peu le produit de tout ce qu'on a vu arriver depuis le début du XVIe siècle, vous rappelez, hein, vous rappelez de l'architecture encore très gothique, mais petit à petit ça, c'était des choses italiennes. Vous rappelez de Serlio qui arrive avec sa Renaissance italienne, hein, et son vocabulaire antique. Vous rappelez ensuite comment petit à petit on va mailler, penser à quoi, hein, des éléments de plus en plus symétriques, géométriques, ordonnés dans l'architecture de la Renaissance pour arriver finalement à l'architecture Louis XIII et à Mansart qui est, j'allais dire, un des architectes classiques les plus évidents.
Et il n'y a pas de décor, il n'y a rien de...
Très peu de décor, hein. Sobriété. C'est l'architecture classique, c'est pas de chichi. Hein.
C'est
Pierre et Bastille.
Mais
beaucoup,
de fenêtres.
Beaucoup de fenêtres. Beaucoup de fenêtres, hein. Mais évidemment, pas de chichi, on va pas mettre des petits bouts de machin, etc. On peut de temps en temps, mais souvent l'architecture classique, bah, d'ailleurs Versailles, vous parliez de Jules Ardouin Mansart, hein, et la façade sur le jardin avec lui. Hein. Bah, c'est pareil, c'est assez... Alors il y a bien de temps en temps des petits reliefs sculptés, on est d'accord. Hein, mais c'est quand même extrêmement sobre. Hein. C'est très très sobre. C'est classique. L'architecture française du 17e, c'est l'architecture classique. Ben, vous en avez là, vous avez vu comment elle était arrivée. On en était arrivé là.
Ouais.
Ouais. Sévère, on peut dire ça. Moi, je ne sais pas si je dirais ça, parce que sévère, c'est, comment vous dire, c'est déjà comment dire, une manière subjective d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Je dirais plutôt que c'est sobre. Hein. D'ailleurs, ce type d'architecture classique s'oppose finalement en Europe à l'époque, à l'architecture baroque. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est l'inverse du baroque. Hein. L'Europe, à cette époque, elle est coupée en deux. Il y a les baroques, les classiques. Aujourd'hui, on dit bon. À l'époque, c'était un couteau tiré, si j'ose dire. Hein. Cet enjeu classique-baroque est un enjeu fondamental, hein, dans l'architecture européenne du XVIIe et du début du XVIIIe. Hein. Et la France, elle est classique. Voilà, un château classique. D'ailleurs, pardon.
Il n'y a pas de courbe du tout, la seule courbe.
Pas de courbe.
C'est la petite clocheton.
Voilà, le petit clocheton.
Et
le clocheton sur le corps principal.
Et, toi.
Et vous avez remarqué, effectivement, que les corps étaient très bien dessinés. Tout ça est très clair, très précis, très sobre. Il y a aussi... alors, il n'y a pas de fla-fla, de temps en temps, une bricole, mais... mais les matériaux, il y a de la brique, il y a de la pierre, on sait que la brique c'est de la brique, que la pierre c'est de la pierre, tout ça est assez ciselé, vous voyez. On fait aussi attention aux matériaux qu'on utilise. Il y a donc un côté comme ça, très dessiné. Hein. Et alors vous avez bien remarqué, hein, que la façade avant était grosso modo la même que la façade arrière. Hein. C'est pareil. Hein. Il y a donc une sorte d'homogénéité, mais elle débarque pas comme ça. Rappelez-vous, Serlio, hein, avait amené ça finalement. Ben bon, le château dans ses formes, tous les côtés, c'est pareil. Hein. On a un peu la même chose ici. Hein. Alors ensuite, il y a ça. Alors ça, c'est quoi ? Parce que ça, vous le connaissez. Et même, vous le connaissez très bien. Et vous le connaissez super bien. Vous y êtes allés. J'en suis sûr, tous.
La Ferté ?
Ça vous dit rien ?
C'est à Paris.
Il est vrai que quand on voit ce lieu, on vient plus voir ce qu'il y a à l'intérieur que l'hôtel lui-même.
Château de la Verrerie ?
Non.
Ah non.
Au Creusot, non.
Non. La Ferté ?
Non plus.
Ah non.
Il y a un indice. L'indice, vous allez le voir en bas à droite de la photo.
La Ferté ?
Non.
En bas à droite.
Il y a une statue.
Un bronze, une espèce de bronze.
Ah oui, là.
Un homme.
Ouais.
C'est une statue. Illustrissime.
Rodin, c'est le penseur de Rodin.
Oui, c'est le penseur.
C'est le penseur de Rodin.
C'est le Sénat.
Ça,
c'est le Sénat.
C'est le musée Rodin. Vous le connaissez tous. Vous êtes allé mille fois voir le musée Rodin. Là, vous avez vu les Rodins, mais vous n'avez pas vu l'hôtel où il se trouve. Ça, c'est l'hôtel Biron, parce que Rodin avait acheté l'hôtel Biron et il avait installé son atelier dans l'hôtel Biron. C'est l'hôtel Biron. Vous aviez bien daté, d'ailleurs, hein, début 18e. Donc c'est vrai que quand on va au musée Rodin, on ne regarde pas trop l'hôtel. On va voir le Bézier, le Censeur, les Portes de l'Enfer, Saint-Jean-Baptiste, Balzac, que sais-je. On ne vient pas voir ça. Or, c'est un très bel hôtel, hein, très très typique du début du 18e, dont la façade arrière, c'est celle-là. Vous l'aviez bien identifiée. Eh non. Et alors, là aussi, qu'est-ce que vous diriez pour caractériser tout ça ?
C'est très symétrique aussi.
Très symétrique aussi.
Sobriété.
Oui, mais fronton.
Grande fronton.
Pierre. Hein. Oui. Effectivement, on va voir que de plus en plus, l'architecture française classique, même encore au début du 18e, hein, est une architecture de pierre, minérale. Hein, la minéralité, la pierre. Hein.
La grand fronton.
Grand fronton.
Et oui.
Un balcon, absolument. Ouais. Des choses qui commencent vraiment à apparaître de plus en plus, le balcon. Absolument. Il n'y avait pas forcément auparavant. Ouais. C'est vrai.
Et les fenêtres en
des fenêtres arrondies, oui. Alors, on en a peut-être déjà vu, mais là, ça se généralise. Hein.
Ah, mais les côtés ont des courbes.
C'est-à-dire qu'on arrive maintenant avec des petits éléments de vocabulaire qui viennent très doucement, hein, contrarier un peu l'espèce de côté absolument hyper rectiligne et quadrangulaire qu'on avait jusque-là. Hein. Au 18e, on s'autorise des petites licences de ce genre. Hein. Voilà. Dire non plus une façade, schlac, rappelez-vous Mansart, bah le roi, hein, mais des petits redans, des. Voilà. Hein, petit à petit, effectivement, un balcon. Hein. On va également volontiers, ce qu'on a fait déjà au 17e, mais le 18e va transformer l'essai, si j'ose dire, faire des macarons avec des petites figures au-dessus des fenêtres. On en a au 17e, bien sûr, mais le 18e transforme l'affaire, enfin la poursuite, si vous voulez. Hein, voilà. Donc, très bel hôtel qui a été restauré récemment, d'ailleurs, comme le musée Rollin dans son entier, et qui est un bel hôtel parisien. On n'y pense pas toujours, encore une fois, mais c'est vraiment un lieu, en plus historique, Rollin l'avait acheté pour lui. Et puis, vous aviez raison, il y a ça, hein, qui est donc le dernier. Hein. Quel est l'architecte de ça ?
Gabriel ?
Ça pourrait, mais c'est pas. Ça pourrait. Pardon ? Alors, celui du Panthéon, c'est qui l'architecte du Panthéon ? C'est Soufflot. Hein, Soufflot. Hein. Mais c'est pas lui, mais ça pourrait. Alors, c'est pas Soufflot, c'est pas Gabriel, c'est un autre architecte que vous connaissez, tous. Tout simplement parce qu'il a fait dans notre grande région un monument extraordinaire, illustrissime. Les Salines. Et donc, c'est qui l'auteur des Salines ?
Ledoux.
Hein, c'est de Claude-Nicolas Ledoux. Donc, on est là devant, effectivement, une architecture néoclassique de la fin du 18e. Hein, le château de Bénouville, c'est aussi en Normandie, de Claude-Nicolas Ledoux. Superbe château. Alors là, dernier monument, hein, qu'est-ce que vous auriez à dire ? Ah, il y a de la colonne, hein ?
C'est très carré.
Très carré. Un côté massif. Hein, ouais.
Très carré.
Absolument. Et justement, ça vient de quoi ? Ça, c'est le côté carré, massif, monumental. Hein. Pardon ? L'Antiquité. Hein. On est devant les termes de Caracalla. Hein. Les termes de Caracalla, quand on est devant, waouh ! Ben là, c'est pareil. Hein. On est devant vraiment du monumental. Hein. On n'est pas devant un petit château. On a là vraiment une impression de monumentalité qui est très, très forte. Alors, il y a toujours la sobriété, il y a toujours la symétrie extrême, hein. Il y a toujours la volonté, mais c'est de la sobriété, de ne pas mettre de petits zigouigouis partout. Et à part le fronton, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est vraiment une grande simplicité.
Il n'y a pas des grands toits.
Non, pas des grands toits. D'ailleurs, quand on voit l'arrière, c'est choc. En fait, il y a... pardon. Alors, en fait, il y a un toit, mais très très peu pentu, et qui est caché par la partie supérieure de l'attique, si vous voulez, hein, qui vient cacher un toit très peu pentu, mais qui évite que l'eau rentre dans la maison. Ah oui, et vous voyez, il y a les décors, hein, ces chapiteaux. C'est quoi d'ailleurs ça, que vous voyez entre les...
Des colonnes engagées, sont des pilastres.
Pilastres. Pilastres. Des pilastres engagés. À la colonne, elle est ronde, le pilastre, il n'est pas rond. Hein. Voilà. Ce sont des pilastres engagés. De quel anse ?
Bah,
Oh, si. Alors, il y a une petite guirlande. Hein. Ça se voit souvent. Ionique. Hein, c'est ionique. C'est ionique, mais il y a une petite guirlande pour enrichir un peu. D'accord ? Bien. Très bien, mais écoutez, on aura bien travaillé là-dessus, mais je voudrais qu'on aborde un autre petit sujet, et avant, pour souffler 30 secondes, petit intermède. Un intermède. Où je vous montre ça. Ah ben dites donc, pour casser l'ambiance, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vous montre là? Pardon? Les soubassements du loup. Fouille réalisée où? Mais quand?
C'est vieux.
C'est vieux. Non. Après la guerre. Il est vrai que quand on voit le camion qui est là, c'est pas un camion de tout à fait hier. Hein? Vous êtes... Pardon? Après quelle guerre? Donc ce seraient les photos prises après la guerre. Mais après une guerre. Donc on est au Louvre, effectivement, vous voyez le Louvre derrière. Hein. Vous voyez quoi du Louvre? Quelle partie du Louvre? Vous connaissez tous le Louvre par cœur. Hein. C'est quoi au Louvre ça?
Il y a la colonnade apparemment.
Alors il y a la colonnade, effectivement. Au-dessus, vous voyez la colonnade du Louvre. Hein. Vous la devinez là-haut. Hein. Ces deux photos, j'ai pas pu faire un montage très précis. Oui. Enfin, bon.
C'est la colonne de
Donc on est à l'arrière, c'est la colonne du Louvre. Ça fait penser à un rempart. Est-ce vraiment un rempart? Qu'est-ce qu'on voit finalement? L'ancien Louvre. C'est-à-dire qu'on aurait là des éléments de l'ancien Louvre. Oui. Le Louvre du Moyen Âge. C'est plus en profondeur. Et puis c'est surtout plus vers l'ouest. Hein, c'est sous la cour carrée, grosso modo. Or, la cour carrée, elle est derrière la colonnade. Or, là, on est devant la colonnade. Là, vous avez Saint-Germain-l'Auxerrois. Hein, et là, vous avez la colonnade. Ben, c'est devant la colonnade du Louvre qu'on a trouvé ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs?
C'est les soubassements de Philippe Auguste.
Non. Finalement, Philippe Auguste, on les voit plus loin, plus vers l'ouest. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là?
Des termes.
Romain ?
Oh.
Il se trouve que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, Louis XIV a invité un très grand sculpteur architecte italien à Paris pour qu'il reconstruise le Louvre. Hein? Quel était cet architecte et sculpteur fameux ?
Ben c'est Bernin, alors.
C'est Bernin. C'est Bernin. Hein? Celui dont on a déjà parlé, d'ailleurs, tout à l'heure. Je ne sais plus pourquoi, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. À cause de quoi on a parlé?
Une statue.
La statue de Michel-Ange.
Voilà, c'est ça. Oui, on a dit Michel-Ange, on avait évoqué Bernin. Bon, mais c'est dit. OK. Donc, Bernin est invité en 1665, si ma mémoire est bonne, à Paris par Louis XIV, pour reconstruire complètement le palais du Louvre. Bernin va donc réfléchir, commencer les travaux, et les travaux vont bientôt s'arrêter. Pourquoi?
Il est viré.
Il est viré. Et pourquoi?
C'est la statue qu'il n'a pas aimé.
Pardon?
Il devait pas faire une statue.
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il devait faire une statue. Il en a d'ailleurs fait plusieurs. Hein. Il a fait une statue d'un buste de Louis XIV, qui est toujours à Versailles, hein, qui a été fait pour l'escalier des ambassadeurs. Ça a été. Il a dû faire une autre statue qui représentait Louis XIV à cheval. Mais là, ça n'a pas beaucoup plu. Tellement d'ailleurs que on a, après le départ de Bernin, un peu transformé la statue pour en faire une sorte de héros antique, et on l'a exilé à Versailles, au fond, la pièce d'eau des Suisses, c'est-à-dire tout à fait loin. Hein. Alors, depuis, on l'a enlevé, on l'a mis à l'abri dans l'orangerie du château de Versailles, mais il y en a une copie en plomb dans la cour du Louvre. Vous connaissez la cour du Louvre, avec la pyramide, hein. Et bien, à côté de la pyramide du Louvre, il y a une statue en plomb qui est le moulage d'après la statue de Bernin, faite pour Versailles et qu'il n'avait pas pu à Louis XIV. OK ? Mais Bernin, il avait donc fait ça. Et si c'est fait virer, c'est pas simplement parce qu'en effet, la statue en question n'a pas trop plu à Louis XIV. Il y a une autre raison.
Il n'y a plus d'argent.
C'était pas une question d'argent. D'ailleurs, après, on va construire la colonnade du un archidiacre qui s'appelle Perrault. Hein.
Oui.
Voilà. Donc, l'argent, il y avait. Pardon ?
Montrer que le Louvre était plus ancien et que finalement Louis XIV n'était pas le maître d'œuvre, en fait, je ne sais pas, le commanditaire.
Non, parce que c'est Louis XIV qui fait venir Bernin et qui lui commande les travaux. Sauf que les travaux s'arrêtent. Bernin, il représente quoi ? Pardon ?
Le baroque.
Bernin, c'est le baroque. C'est même pas le baroque, c'est the baroque, hein, si j'ose dire, en français. Vous avez raison. Hein. Bernin, c'est l'artiste baroque par excellence. Hein. C'est l'artiste baroque. Hein. Or, en France, qu'est-ce qu'on peut dire à l'époque ?
C'est le classique.
C'est le classique, on vient de le voir. Hein. La France est complètement classique, et les Vacons débarquent, n'est-ce pas, comme une fleur, l'artiste le plus baroque qui soit.
Pourquoi l'avait-il fait venir ?
Parce que Louis XIV, pour Louis XIV, le Bernin était le grand artiste. Hein. Donc Louis XIV l'a fait venir. Sauf que ça n'a guère plus autour de Louis XIV. Les artistes, parce que Bernin, ça a plu à Louis XIV, mais beaucoup d'artistes en France n'étaient pas du tout d'accord, du tout, du tout, du tout. Et Bernin s'est retrouvé avec devant lui des cabales terribles de toute l'intelligentsia classique de la France du temps, à tel point que Louis XIV va finalement être obligé de se séparer du Bernin. Hein. Arguant plus ou moins que telle sculpture ne lui plaisait pas, que voilà, total, les travaux vont être arrêtés au soubassement de la colonnade du Louvre, hein, et puis c'est tout. Et puis Bernin va retourner en Italie. Ce qui fait qu'après, on va... Comblé tout ça, un remblayer, et que Malraux, en 1964, a fait recreuser les fossés du Louvre, qui en fait n'avaient jamais été creusés, hein, et il va les créer finalement, hein, et on va trouver ça, et on va d'ailleurs démonter ça, mais aujourd'hui, sous la pyramide à un endroit, il y a une partie de ces éléments qui ont été reconstitués. Je ne sais pas si vous les voyez. Hein, voilà. Donc ces éléments qu'on ne voit plus aujourd'hui, sinon partiellement sous les espaces qu'il y a sous la pyramide du Louvre, sont très intéressants parce qu'ils montrent bien finalement ces enjeux que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette lutte baroque-gothique. La France, elle s'est... baroque-classique. La France était complètement classique. On essaie d'y faire débarquer l'architecture baroque et ça ne marche pas. Hein. C'est-à-dire que vraiment, l'architecture en France... au XVIIe et XVIIIe, c'est une architecture classique. Alors parfois, certains artistes vont se piquer de petites choses baroques, hein, mais c'est une architecture classique qui est vraiment à l'opposé de l'architecture baroque. D'ailleurs, vous voyez, hein, à quel point, même dans ces débris qui n'ont pas été terminés, on voit le côté baroque. Vous voyez, par exemple, là, l'appareil de pierre était de plusieurs types. Hein. Et en plus, vous voyez que c'était droit, mais que là, il y avait une courbe et que ça continuait, il y avait une courbe à nouveau. Enfin, bref. Vous voyez que juste dans le soubassement, c'est vraiment ce qu'on voyait en gros pas dans le projet de Bernin, c'était déjà complètement mouvementé. On est à 10 lieues, n'est-ce pas, de ces architectures classiques complètement rectilignes que l'on a vu petit à petit se mettre en place en France. D'accord ? Donc cet épisode, cet intermède, je voulais vous le proposer simplement pour vous, parce qu'il est très très symbolique de cette lutte du classique et du baroque.
Il reste des plans de ce qu'il voulait faire ?
Oui, absolument. Oui, oui. Des plans et des élévations, même, de ce qu'il voulait faire. Oui, tout à fait. Et ça aurait été tremblant différent. Vraiment pas du tout classique, mais tout à fait baroque. Ça ne pouvait pas plaire. Pour terminer, oui, c'est bien, on a une limite d'un quart d'heure. Je vous ai préparé quelques vues de lieux, essentiellement des châteaux, de lieux profanes, dus à quelques-uns des plus grands architectes qui ont travaillé en France au XVIIe et XVIIIe siècle. Orly va être tout simplement de reconnaître ces lieux et de voir si on peut se rappeler quels sont les architectes correspondants. D'accord ? Pas de problème. Le lieu. Aussi. C'est le Louvre. C'est la cour carrée du Louvre. Hein ? C'est la cour carrée du Louvre. Enfin, c'est une portion de la cour carrée du Louvre. Hein. C'est là, c'est le pavillon de l'horloge. Hein. Là, vous passez dessous et hop, vous tombez sur la pyramide de Pei. D'accord ? Hein, voilà. Donc, c'est une section, une portion des façades de la cour carrée du Louvre. Architecte. Époque. Non. 17. Pierre Lescot. Ça vous dit quelque chose, Pierre Lescot, hein ? Pierre Lescot, c'est un architecte qui, au milieu du XVIe siècle, commence à réaliser cette cour carrée du Louvre. Hein ? Alors, après, le reste de la cour carrée sera fait par d'autres, mais j'allais dire, avec comme modèle ça. Vous savez, derrière cette façade-là, il y a cette fameuse salle où il y a un balcon avec des cariatides. Vous savez, la salle des cariatides, hein, où se trouve une partie des collections de sculptures gréco-romaines, des cariatides qui d'ailleurs ont été influencées par quel monument célèbre dont on a parlé ici ? Les Recteion, voilà, hein, sur l'acropole d'Athènes. Hein. Donc vous avez là, hein, quelque chose qui vous est connu. Hein. Alors, monument suivant. Oui, je vous montre ça parce que c'est une vue prise la nuit, mais qui, je crois, montre bien l'idée qu'il y a là-dedans. Vous voyez le jeu, oui, c'est beau, hein, le jeu entre les pilastres corinthiens, les colonnes corinthiennes, colonnes qui sont là, pas du tout pour soutenir, hein, mais on l'a vu tout à l'heure, hein, pour, j'aimerais mettre en avant une porte, en l'occurrence, hein, on a déjà vu ce vocabulaire, là. On a vu la silhouette, maintenant on voit comment on a brodé autour de cette silhouette de ce déroulé qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Là, c'est un château dont vous m'avez déjà parlé. Là, je vous les montre dans l'ordre chronologique. Hein. Parce que c'est la fin de la séance, on est fatigué. Quel château, ça ? Ouais. Oui. C'est le château d'Annay ou d'Annette. Je ne sais jamais ce qu'on doit dire. Voilà. Hein. Donc, c'est Philibert de Lorme. Hein. C'est Philibert de Lorme qui a construit le château pour Diane de Poitiers. Hein. Donc, fameux château qui a eu bien des soucis. Hein, parce que Annay ou Annette, dont vous connaissez d'ailleurs le pavillon d'entrée, que voilà. Hein, très grand. Hein. Chose, là aussi, vous voyez, très assez antiquisante, dans laquelle on avait même intégré un bas-relief de Benvenuto Cellini, hein, la fameuse Diane, enfin, nymphe de Fontainebleau. C'est bon, ça a été fait pour Fontainebleau, mais finalement mis à Annay. Hein. Ce château d'Annay, j'en montre ici une vue aérienne. Hein. Voilà l'aile que je vous ai montrée. Hein. En fait, au XVIe siècle, c'était un château en U. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un bâtiment là et un bâtiment là. Ces deux bâtiments ont complètement disparu, il ne reste plus que celui-là. Bon. Derrière cette aile, il y avait la chapelle. Alors quand on a détruit cette aile, paf, la chapelle s'est retrouvée en première loge, si j'ose dire. Hein. Alors qu'avant, bah, il y avait une aile devant. Hein. Et quand on a détruit cette partie-là, Alexandre Lenoir, qui est le créateur du Musée des Monuments Français, hein, vous connaissez peut-être ce personnage, Alexandre Lenoir, c'est lui qui, à la Révolution, a créé à Paris le Musée des Monuments Français, et qui a récupéré beaucoup de choses à droite et à gauche, hein, notamment tous les une grande partie des gisants des rois de France. Eh bien, Alexandre Lenoir, il a récupéré la façade, le portique qui était au centre de cette aile, ici, de l'aile nord. Il y avait un portique qui décorait la porte centrale de cette aile principale, hein, au fond de la cour, et c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire ça, c'est le portique qui à l'origine se trouvait à Annay, au milieu de cette aile centrale au fond de la cour. Et ça, c'est toujours visible à Paris, là où avait été aménagé le musée des monuments français, et c'est aujourd'hui l'école des Beaux-Arts. Vous savez, l'école nationale des Beaux-Arts à Paris, hein ? Eh bien, c'était ça, le musée des monuments français. Eh bien, dans la cour de l'école des Beaux-Arts, vous voyez ce portique-là. Eh bien, ce portique, c'est l'ancien portique qui était au milieu, au centre de l'aile principale du château d'Annay.
Voilà. Mais dans la chapelle, est-ce qu'il n'y a pas une coupole extraordinaire ?
Si, absolument. Très, très belle coupole dans la chapelle. La caisson, c'est...
Je ne me souviens que de la coupe.
Oui, oui. Annay, il en reste peu, et cette pauvre aile a été d'ailleurs pas mal traficotée, mais ce qui reste est très bon. Mais alors, c'est un château qui en a pris... Oh là là, ça a été un peu dur, hein ? En tout cas, vous voyez quelque chose là qui nous rappelle beaucoup, sous la plume de Philibert Delorme, ce qu'on a vu à Écouen tout à l'heure. Ça, c'est du solide, hein ? Alors, c'est quoi, ça ? Oh, c'est important, ça. Et vous connaissez tous ?
C'est pas des Invalides ?
Non. C'est un bâtiment que vous connaissez tous. Très important.
C'est le palais de Luxembourg ?
Oui ! C'est le palais de Luxembourg, hein ? Autrement dit, ce palais érigé pour Marie de Médicis, par Salomon de Ross. Hein. Donc un lieu tout à fait important, hein, tout début du XVIIe siècle. Hein. Et c'est intéressant parce que quand on pense à ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez comment petit à petit, hein, l'architecture classique se met en œuvre. Hein. Vous voyez, symétrie, on a finalement une sorte de ancien franc monumental. Hein. On voit bien comment, si vous voulez... l'influence italienne a servi les architectes français pour organiser le classicisme, mais comment après, l'influence italienne plus tardive, baroque, a été absolument mise de côté pour créer un style architectural absolument original en France, qui est le classicisme. D'accord ? Et là, vous voyez finalement une sorte de prémisse du classicisme. Hein. Vous regardez le palais Luxembourg de tous les côtés, c'est à peu près pareil, sauf évidemment... sur la rue, hein, où vous avez ça, hein, et vous reconnaissez ça, avec le pavillon d'entrée, etc. Enfin, même chose qu'à Annay, finalement. D'accord, hein. Voilà. Donc, toujours Salomon de Brosse, hein, un des grands, grands, grands architectes du début du XVIIe. Hein. Oui, de Brosse, il y a également le Parlement de Rennes. Hein, je vous le montre là, parce que c'est un autre bâtiment important, terminé par de Brosse. Ça aussi, c'est un château très, très intéressant, pas très connu. Alors, pardon ? Ouais. Très intéressant, pas très connu. Il est d'un architecte dont on a déjà parlé tout à l'heure. Puisque, je vous montre ça chronologiquement, là, on est vers le milieu du XVIIe. Hein. Ça peut être de qui, ça ?
Pardon ?
Mansart. François. Hein. François Mansart. C'est Maison Lafitte. C'est château de maison. Il n'est pas très connu, mais il est très intéressant. Hein. Très beau château, hein. Très classique. Un classicisme qui a encore, vous voyez, des choses qui viennent. Par exemple, regardez la manière dont là, on a une espèce de portique, ça nous rappelle ce qu'on a vu quelques décennies auparavant, à Écouen, par exemple, ou à Annay. Hein. Intéressant. On voit que là, on est dans la première moitié du XVIIe, on a encore ça. Mais déjà, une façade très plate, avec une grande symétrie, une certaine sobriété, même si c'est moins sobre que le château de... Vous vous rappelez, ça nous est montré tout à l'heure, bah, le roi, qui était du même, hein, Riquet Pierre. Hein. Voilà, ça c'est l'arrière du château de Maison Lafitte. Oh, ça vous connaissez. Eh bien voilà, c'est Vaux-le-Vicomte. Et Vaux-le-Vicomte a été élevé par qui ? C'est facile de s'en souvenir, d'ailleurs, il y a un moyen mnémotechnique.
Le Vaux.
Le Vaux, il a fait Vaux-le-Vicomte. Alors ça s'écrit V-A-U-D, alors... Ah non, D, V-A-U. Je l'écris toujours avec un D, mais je sais pas. V-A-U, donc. Alors que Vaux-le-Vicomte, c'est un X. Hein. Voilà. Donc Vaux-le-Vicomte, hein. Alors vous connaissez l'histoire, ça a été élevé pour...
Ah ouais, pour Nicolas.
Nicolas Fouquet, hein, le surintendant, et vous savez que la jalousie du 14 a fait que Fouquet est planqué en prison et que, voilà, Louis XIV va construire son volet contre lui, c'est-à-dire Versailles. Hein, vous connaissez tout ça. Très beau château. Ouais, hein,
c'est, bon. Le jardin.
Ah oui, le jardin extraordinaire. Hein, voilà. Bon, là, on est dans un classicisme monumental, mais enfin, voilà, hein, qui s'affirme. Et ça ?
Le Grand Trianon.
Le Trianon, lequel ?
Le Grand Trianon.
Le Grand Trianon.
Ça, oui.
Et alors, c'est qui a fait le Grand Trianon ? Pardon ? François Mansart ?
L'autre.
C'est Jules Hardouin. Hein, effectivement, c'est Jules Hardouin Mansart. Vous caractériseriez comment, d'ailleurs, cette architecture du Grand Trianon ? Donc voilà l'autre façade.
Ouais. En gros, la maison des champs de l'époque.
Pardon ?
La maison des champs de l'époque.
Oui, oui. Bon, assez luxueuse, hein ? Mais effectivement... Vous voyez à quel point on est dans une sobriété classique. Hein, il y a des arcades, choc, les unes derrière les autres. Il n'y a pas d'étage, en tout cas visible.
Ah, il y a des décrochements dans la façade.
Il y a quelques décrochements dans la façade. Hein. Il y a au centre cette colonnade qui coupe le bâtiment en deux. Mais on est vraiment dans une sorte de lame comme ça. Hein, donc vraiment toujours cette dimension classique, très raisonnable, avec des matériaux bien choisis, du marbre, etc. Enfin, vraiment, on est là devant un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture classique. Et je vous rappelle que, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est Jules Hardouin-Mansart qui a fait ça. On est fièrement dans la même idée. Hein. Ça, c'est un peu plus monumental que le Grand Trianon, tout simplement. Oh pardon, non c'est pas Grand Trianon, pardonnez-moi, j'ai pas, c'est un copier-coller, c'est pas le Grand Trianon, hein. c'est évidemment le château de Versailles, pardonnez-moi. Ça, bâtiment pas très connu, mais je l'ai mis là parce qu'on n'y pense jamais à ce pauvre château-là, c'est le château de Lunéville. Qui est dû à Beaufranc. Vous savez, ce pauvre château qui a brûlé il y a quelques années, alors qui a fait l'objet des restaurations énormes. On aurait mieux fait d'ailleurs le restaurer avant pour pas qu'il brûle, mais ça, c'est un autre problème. Voilà. Donc Beaufranc, qui est aussi un émule de Jules Hardouin Mansart. Hein. D'ailleurs, ça rappelle un peu, en plus, peut-être un peu plus mastoc, hein, mais ce qu'on a à Versailles, parce que Beaufranc est encore une fois un émule de Mansart, de Jules Hardouin Mansart. Voilà, ça c'est l'autre côté du même château de Lunéville. Et puis je crois que c'est le dernier.
Le petit Trianon.
C'est le petit Trianon. Alors qui est dû à qui ?
Gabriel.
À Gabriel. Hein. Ange Jacques Gabriel. Hein. Le petit Trianon. Peut-être une des choses les plus merveilleuses de l'architecture française. Hein. Vraiment une chose d'une... Ça, c'est pas ce que nous rappelait Nicolas Ledoux tout à l'heure. Hein, vous rappelez ? Mais alors, évidemment, beaucoup plus petit. Hein. Mais voyez comment, au XVIIIe siècle, hein, on est encore dans une sorte de comment dire, d'héritage architecture classique du siècle antérieur. Hein. On est dans la symétrie, dans l'ordonnance, une organisation. Tout est très extrêmement lisible. Hein. Y a un soin du matériau, surtout pas de chichi, on est dans la sobriété. Hein. Voilà, c'est très typique de cela, et voilà l'autre côté. Hein. Vraiment, on n'est pas loin de Ledoux. Hein. Mais c'est sans doute une... Puis vous voyez, c'est une architecture qui est très contenue. C'est-à-dire, on n'est pas dans le baroque avec des ailes dans tous les sens, des toits qui font comme si, des figures qui n'en finissent pas sur les façades. Non, on est vraiment dans une sorte de retenue, une architecture raisonnable, précise, dessinée, claire, où de l'extérieur, on voit ce qui se passe à l'intérieur, je dirais. C'est-à-dire qu'on pourrait, comme ça, essayer de commenter et de dire, ben là, il y a telle chose, là, telle autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de logique intérieure-extérieure, de justesse, si vous voulez, qui est vraiment, avec tous les adjectifs qu'on a déjà donnés, hein, peut-être ce qui qualifie cette architecture classique dont le XVIIIe siècle va prendre, et le petit Trianon en est un exemple, le relais. Ah oui, il y avait une dernière chose.
Ce sont des salines.
Pardon ?
Quelque part.
C'est en France ?
Pardon ? C'est en France.
Ah, c'est très
romain. Oh oui.
C'est très romain.
C'est très romain, hein ? Oui. C'est qui, ça ? On dirait un tombeau.
Le Doubs.
C'est de Le Doubs. Et c'est où, ça ? C'est à Paris. Et c'est quoi ? Une des portes. Enfin, un des pavillons d'octroi. Hein, vous savez que... Il y avait autour de Paris ce fameux mur murant Paris qui rendait Paris murmurant. Hein. Alors, ce n'était pas forcément toujours un mur en dur, hein, mais il y avait des octrois tout autour de la ville. Et Claude-Nicolas Ledoux a reçu la commande de la réalisation de toutes les portes d'octroi. Alors, il en reste assez peu, mais il reste notamment celle-ci, qui est où d'ailleurs ? Elle est, c'est très beau, ça vient d'être restauré. C'est à la Villette. Hein. Alors, c'est la rotonde ou la Vienne. Il y a le métro qui passe juste à côté, ça c'est un petit peu moins bien, mais c'est un très, voilà restauré, hein. C'est un très très beau bâtiment, hein, et qui montre cette architecture absolument étonnante de Ledoux, hein, qui fait une sorte de, comment vous dire, de résumé, hein, très cohérent entre toute cette histoire du classicisme, et cette espèce de retour à l'antiquité pure et dure, hein, une sorte de retour aux sources finalement, hein, mais qui vraiment se combine assez bien avec le classicisme que nous avons vu. Pardon ?
Très bien.
Hein, c'est beau, hein ?
Très beau.
Il était temps que ça
termine. Pardon ?
Il était temps que ça termine parce que 1788.
Oui, effectivement. Oui, oui, il était grand, grand temps. Ben écoutez, voilà, je crois que c'est la dernière vue. Ben oui. Alors écoutez, on terminera la semaine prochaine en regardant d'autres choses, mais enfin, on a aujourd'hui bien travaillé sur cette question de l'architecture.